La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de la mêlée de l'info pour nos débats consacrés à l'actualité nationale. Voici celles et ceux qui ont accepté d'y participer aujourd'hui. Je salue Sandrine Floreuse, conseillère départementale de la Haute-Garonne, membre du Parti Socialiste. Bonsoir. Je salue également Hugues Bernard, syndicaliste à la CFDT, président du Cercle Raymond Badiou. Et je salue enfin Gabriel Robin, journaliste et essayiste, rédacteur en chef du site Atlantico. Bonsoir. Bienvenue à tous les trois, merci d'être fidèles au rendez-vous. Il était impossible de ne pas aborder dans cette émission le meurtre de la petite Liana et les suites de ce crime abominable. Avant d'en parler, je voudrais avoir une pensée pour elle et sa famille alors que ses obsèques ont lieu ce vendredi à 14h30 à Fleurance, dans la plus stricte intimité. Depuis la découverte de son corps, il y a eu de nombreuses révélations, entre autres concernant les plaintes et signalements à l'endroit de son meurtrier présumé, ceci étant largement antérieur au meurtre et n'ayant pas débouché sur des convocations ou des enquêtes de police. Ces révélations ont entraîné une immense vague d'émotion et de colère en France. L'opinion publique est convaincue que cette tragédie aurait dû être évitée et qu'elle est survenue en raison d'une suite de manquements et de ratés dont les responsabilités devront être établies. Le pays se trouve depuis plongé dans une tourmente politico-judiciaire où sont mis en cause pêle-mêle l'État, le ministre de la Justice, les magistrats et la police à des degrés divers. Pour votre part, et pour ce que l'on en sait à ce stade de l'enquête, est-ce que vous partagez les mêmes incompréhensions et les mêmes interrogations que beaucoup de nos concitoyens quant au fait que Jérôme Barella, le meurtrier présumé, n'a jamais vraiment été inquiété jusqu'alors? Et que dit, selon vous, cette triste affaire du fonctionnement de la justice française, notamment en ce qui concerne le traitement des dossiers ayant trait à des agressions sexuelles ou des viols sur mineurs? Sandrine Floreuse.
Effectivement, au-delà de la douleur et de l'émotion, il faut essayer de prendre de la hauteur et de la distance. Et il y a deux choses qui me semblent fondamentales que révèle cette affaire. La première chose, c'est un problème structurel et systémique lié à la justice. Depuis des années, moins de moyens, moins d'innovation. On se retrouve avec un système à la fois judiciaire et à côté des moyens de police et de gendarmerie qui sont devenus obsolètes. Et quand on met toutes ces pièces de puzzle ensemble, d'insuffisance de moyens, de mauvaise coordination, de charger davantage les magistrats, souvent sur des tâches qui sont administratives et qui ne relèvent plus de leurs compétences, eh bien on se retrouve avec les chiffres dont on a entendu parler aujourd'hui, 70 000 affaires qu'on devrait arrêter avant le 14 juillet. Tout ça n'est pas sérieux et donc on a un problème d'ordre structurel sur l'ensemble des moyens de la justice, de la police et de la gendarmerie. Je crois que le premier point, il est là et il faut éviter de mettre à la vindicte et de jeter des noms d'individus parce qu'au-delà de ce dysfonctionnement réel, incontestable, et c'est un problème structurel de fond. Et puis il y a un deuxième problème qui est lié au caractère même de cette affaire, qui sont les violences faites aux enfants et les violences en général. 160 000 enfants par an, c'est-à-dire toutes les trois minutes, est abusé sexuellement. Et je ne suis pas certaine que dans ce pays, on traite correctement et on prenne la mesure de ce qu'est cette violence domestique. Parce que longtemps, on a estimé que ce qui relevait de l'intime n'était pas dans le champ du public, n'était pas dans le champ juridique, n'était pas dans le champ judiciaire. Et donc, on a... Et je le vois et je l'ai vu longtemps aussi, pendant 4 ans, quand on a copiloté l'Observatoire des violences faites aux femmes, on a un problème vis-à-vis de l'acceptation de la violence et de l'acceptation de ce que sont les victimes. Alors déjà pour les femmes, quand elles sont adultes, on a du mal à les prendre au sérieux. Alors imaginez les enfants. Pourtant, 60% dans les cas que j'ai cités des 160 000, des enfants parlent. Mais leur parole n'est pas entendue. Donc on a deux problèmes qui aujourd'hui convergent, c'est-à-dire un problème structurel de moyens et un problème de pardon, de société qui ne prend pas au sérieux la violence dans laquelle on est et qui donc ne s'en donne pas les moyens.
Hugues Bernard et après donc Gabriel Robin.
Alors, je partage effectivement que l'émotion est immense, elle est légitime, elle montre effectivement que ce fait divers n'est pas seulement un fait divers, c'est aujourd'hui un fait politique qui fait qu'on doit y répondre effectivement en changeant notre manière de traiter le sujet. Alors, dire que c'est un sujet quand même qui a évolué, c'est-à-dire qu'il y a une prise en compte. Aujourd'hui, il y a des numéros de téléphone, il y a le 19, il y a le 119, il y a des moyens qui sont mis en place pour souligner le sujet, pour écouter la parole. Après, est-ce que tous les moyens sont suffisamment mis en place pour le traiter à la hauteur du problème tel qu'il remonte suite à des actions quand même qui sont aussi beaucoup de la société civile, des victimes elles-mêmes, des associations qui prennent le relais. Et aujourd'hui, une organisation qui, face à ce sujet-là, n'a pas mis les moyens. Alors, c'est des moyens très pauvres en France de la justice. Et là, c'est la justice pénale dans son ensemble qui est démunie face à cette question comme à bien d'autres. C'est aussi des actions qui étaient autrefois diligentées par l'État, qui sont aujourd'hui diligentées par les collectivités locales. Tout le système de la protection de l'enfance avec des professionnels et des associations qui permettent effectivement la mise à l'écart, la mise à l'abri, la domiciliation de ces enfants pour les placer, pour les protéger. Et tout le travail qui est fait aussi de prévention qui devrait être beaucoup plus grand entre l'enfance vulnérable qu'on doit protéger, parce que ça coûte beaucoup moins cher de prévenir que de protéger, de préserver, de mettre à l'abri. Et tout ça, effectivement, nous, ce qu'on dit à la CFDT, c'est qu'il est important de relever ce sujet-là et de relever qu'il faut des moyens pour faire en sorte que les organisations puissent répondre, que notre société se donne les moyens de répondre à cela. Et donc, c'est oui, il faut s'émouvoir, mais oui, il y a une responsabilité collective à s'organiser pour que la justice ait les moyens, pour que les professionnels aient les moyens. Et ça, c'est le plus important, c'est-à-dire que ça doit aller de pair. On ne doit pas opposer les deux et on doit attendre aussi sereinement comment les responsabilités seront pointées. Comment on va avoir la semaine prochaine, finalement, une enquête administrative qui va pointer des dysfonctionnements. Et on sait que les dysfonctionnements existent aussi par manque de moyens, ça a été dit, mais il ne faut pas négliger ça. Donc, moi, j'attends sereinement aussi l'enquête administrative et les produits et la manière dont on pourra y répondre.
Alors, après ces deux premières interventions, je passe la parole à Gabriel Robin. Alors, c'est un sujet que vous connaissez.
Oui, un petit peu, hein, j'ai déjà travaillé dessus. Disons que je pense que cette affaire Liana, il y a eu en Belgique un avant et un après affaire du trou. Je pense que celle-ci, elle a un petit peu ce potentiel, en fait, parce que la nature des actes et surtout du parcours criminel préalable de l'auteur présumé, qui semble être vraiment véritablement l'auteur, Jérôme Barella, font que ça a suscité une immense émotion. Contrairement à madame, je pense qu'il y a une évolution dans la société sur l'appréhension des violences sexuelles, de la pédophilie et de l'inceste, qui, me semble-t-il, était plus tabou, voire valorisé à certaines périodes de notre histoire. Dans les années 60 et 1970, vous aviez des auteurs comme Gabriel Mastef, comme Monterland aussi. Voilà. Vous aviez aussi, on se rappelle tous, cette fameuse polémique qui était ressortie en 2007 autour de propos de Daniel Cohn-Bendit. C'était des propos qui à l'époque, étaient assez communs.
Malheureusement toléré. Ouais.
Et je me souviens qu'il y a une archive INA, vous pouvez la consulter. D'ailleurs, où Gabriel Mastef est en interview avec Bernard Pivot, il y a une femme québécoise qui l'attaque. Et c'est plutôt à lui que les autres invités donnent le point. Donc c'était quand même quelque chose d'assez admis. Même moi, je peux me souvenir à titre personnel que dans mon enfance, et pourtant je ne suis pas si vieux que ça, il y avait ce qu'on appelait autrefois les pédérastes qui chassaient dans les piscines, devant les cinémas, etc., qui vous proposaient des trucs dès que vous avez 13-14 ans. C'est quelque chose qui était quand même assez répandu. Aujourd'hui, à mon avis, il y a une prise de conscience en fait, que ces comportements ne sont pas acceptables, ne sont pas normaux. Mais il y a une insuffisance tant de moyens que de philosophie du droit. Et c'est ce qui est en train de ressortir des débats. C'est-à-dire qu'il y a quand même un Premier ministre qui a dit des choses qui autrefois auraient été très peu acceptées. Quand il y a des époques où on parle de Foucault, c'est surveiller et punir, etc. C'est une mentalité autour de la réinsertion. Et on vous parle de l'incurabilité de ces profils criminels, du fait qu'il faut une perpétuité réelle. Et ce sont des discours qui sont de plus en plus portés par des citoyens tout à fait lambda. Parce que la difficulté, effectivement, c'est que en criminologie, j'ai entendu dire que M. Barilla était un criminel sériel. C'est pas vrai. Tous les pédophiles sont sériels. C'est une orientation sexuelle. C'est une paraphilie dans le DSM, en fait, dans le manuel de psychiatrie, au même titre que le masochisme, par exemple. Mais il y a un certain nombre de paraphilies qui sont pas forcément dangereuses pour l'ensemble de la société. Encore que sur la question du masochisme, on pourra en discuter, parce qu'il y a eu beaucoup de cas, quand même, de couples masochistes avec des femmes qui ont porté plainte. Il y a un type qui a récemment été condamné à perpète à Perpignan. L'affaire Pellico, c'est un peu ça aussi. C'est autour du milieu du libertinage. On retrouve d'ailleurs beaucoup dans les cas de familles pédophiles ou d'agresseurs pédophiles, des gens qui sont dans le milieu échangiste, libertin, etc. Donc il y a un véritable problème et ça illustre selon moi cette faillite, la faillite générale en fait d'un certain nombre de critères qui font la civilisation et l'ordre. C'est-à-dire que quand quelqu'un qui a été soupçonné 5 fois n'a jamais été entendu, n'a jamais été convoqué devant un juge, n'est pas surveillé en amont, parce que effectivement ce sont des dossiers difficiles, la parole de l'enfant, etc. Mais à partir du moment où on a un certain nombre de preuves matérielles, il faut peut-être changer aussi les procédures, avoir des gens qui soient surveillés en amont, avec le bracelet électronique, etc. On peut envisager aussi une fiche S des délinquants et criminels sexuels, c'est-à-dire avec une fiche administrative.
On parle de fiche AS.
Voilà, une fiche administrative pour prévenir en amont les écoles, les endroits où on reçoit des enfants, etc. C'est un sujet qui est très vaste et qui demande, mais comme dans beaucoup d'autres, c'est-à-dire que quand je vois ma fiche d'impôt, j'ai payé énormément d'impôts cette année, et qu'on a le dernier budget de la justice, je me demande, à part dans les caisses de retraite et dans la sécurité sociale, où vont mes impôts? Et ça, je ne suis pas le seul Français à me poser la question. Nous sommes nombreux à se poser ces questions-là.
Sandrine Floreus, le point qu'a relevé Gabriel Romain en disant que cette affaire allait peut-être marquer un tournant pour la justice française et pour la manière dont étaient traitées ces affaires d'agression sexuelle sur des enfants, sur des mineurs et de viol a fortiori. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, il va se passer enfin quelque chose?
Je l'espère, mais je crois effectivement aussi qu'il y a une évolution, mais elle est largement la prise de conscience est largement insuffisante eu égard à la violence de la société dans laquelle on vit. Donc, est-ce que ça va marquer un tournant? MeToo a marqué un tournant sur la libération de la parole des femmes et on l'a vu d'ailleurs dans la hausse des plaintes, non pas que les violences n'existaient pas avant sur les femmes, mais elles ont libéré leur parole et donc elles se sont senties malheureusement légitimes à aller porter plainte. Donc est-ce que ça va libérer la parole des enfants? La parole des enfants, 60% des enfants qui sont victimes aujourd'hui d'inceste ou d'actes de pédophilie parlent. Mais c'est comment la société aujourd'hui est en capacité de créer les conditions de prendre cette parole et de lui donner une suite. Moi, ma question en tant que politique, elle est là. Et donc, on parlait de moyens. Mais dans ce pays de l'argent, il y en a.
Interrogeons-nous
sur...
Il y a 5 millions pour l'ADEME, 4 millions pour l'audiovisuel public et 11 millions pour la justice.
Interrogeons-nous sur les politiques fiscales et les politiques de redistribution. Je crois que l'argent est mal utilisé en France et que quand on voit les bénéfices d'un certain nombre d'entreprises du CAC 40 et ce que payent les Français moyens comme nous, on peut s'interroger sur les moyens que l'on peut mettre en œuvre. Donc je réponds à votre question, est-ce que ça peut être un tournant? C'est souhaitable, mais c'est souhaitable pas dans l'émotion, c'est souhaitable dans la prise de conscience des politiques, de créer les conditions de prise en compte de ces phénomènes qui sont malheureusement plus larges que les violences faites aux enfants et les violences faites aux femmes. Il y a des solutions, on avance, hein. Je ne dis pas qu'on n'avance pas, mais on... En même temps qu'il y a des avancées, je vois les observatoires des violences faites aux femmes, les maisons des femmes qui maintenant commencent à se créer dans chaque département, oui, qui sont des lieux extraordinaires où on accueille de manière inconditionnelle les femmes, où non seulement on les soigne physiquement, on les soigne psychologiquement et on les accompagne dans des parcours de sortie. C'est extraordinaire ce qui se passe en France. Ça a mis 10 ans, hein, mais on y arrive. Voilà, donc il faut que le tournant se décline de manière opérationnel.
Voilà. Oui, moi, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que ça a été dit sur l'affaire en Belgique. Ça a été, on peut le voir aussi en Espagne, sur des parquets spécialisés, une police qui est formée, qui peut accueillir la parole et qui peut du coup en faire quelque chose pour la traduire et protéger les femmes. Et aussi, pénalement, avoir une politique pénale qui mène des priorités et qui mette de côté et qui mette... de côté les gens qui sont les plus agressifs, les plus méchants. Donc je pense que ça nécessite des moyens. Ça a été beaucoup de moyens. Moyens d'un parquet spécialisé, moyens de policiers, de gendarmes qui seraient formés à cette écoute. Ça demande évidemment des moyens. Et alors, moi je souhaite effectivement que ce fait divers aboutisse à quelque chose qui soit de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas demain... se reprocher les mêmes erreurs. C'est-à-dire qu'on ne continue pas à avoir la même difficulté à s'organiser pour répondre. Mais la difficulté pour répondre, si on prend par exemple la protection de l'enfance, vous avez un rapport parlementaire qui est sorti, vous avez des recommandations du Conseil économique et social environnemental qui demandent que, par exemple, les associations qui sont prestataires n'embauchent plus en intérim, n'aient plus recours à des contrats courts, qu'on n'ait plus recours même dans les collectivités locales à des contractuels, mais à des titulaires. Parce que ces personnes-là reçoivent des dossiers pénaux avec des images, doivent avoir un accompagnement psychologique si on veut qu'elles soient réactives à 100% comme on le souhaite. Elles ne peuvent pas le faire à moyen constant. Et la prévention, si on veut éviter les mesures de placement et de protection qui coûtent cher, qu'on doit avoir évidemment, si on veut faire de la prévention, il faut des moyens effectivement. On ne peut pas agir en amont sur l'enfance vulnérable si on n'y met pas le paquet. Ça fera des économies sur le long terme. Pas immédiatement, oui, puisqu'on continuera à protéger et à placer. Mais c'est important de penser ça globalement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Si vous regardez aujourd'hui les services de protection de l'enfance des conseils départementaux, puisque c'est les conseils départementaux qui organisent ce service-là, j'ai dit que c'était des contractuels, mais bien souvent c'est en monde dégradé, il n'y a pas les psychologues, il n'y a pas les médecins qui font quand même, il n'y a pas les psychologues et les médecins qui font les diagnostics, il n'y a pas suffisamment de gens aux informations préoccupantes qui recueillent les téléphones verts qui sont mis à disposition de la population pour qu'il y ait les signalements, et derrière, on a des référents ASE qui ne sont pas assez nombreux, c'est des secrets. C'est des travailleuses sociales qui font ça en mode dégradé. Et donc aujourd'hui, on a des gens qui ont fait ce métier-là par vocation, donc qui sont là pour sauver des enfants, mais qui ne sont pas très satisfaits du travail qu'ils font à cause des conditions dans lesquelles ils remplissent ces missions. Ces missions sont aujourd'hui faites en mode dégradé. Quand on connaît le financement des conseils départementaux, le virage austéritaire qu'ils ont dû prendre récemment du fait que leur financement était totalement aléatoire, lié au marché de l'immobilier pour des dépenses pérenne sur le RSA et sur la protection de l'enfance, on voit aussi que là, il y a un problème et qu'on ne peut pas continuer à faire ça et qu'aujourd'hui, il faut des moyens. Nous, à la CFDT, ce qu'on attend, c'est sereinement l'enquête administrative qui mettra en évidence peut-être des défaillances individuelles. Oui, il est hors de question de dire qu'il n'y en aura pas.
On en a parlé.
Il peut y en avoir. Si c'est et c'est l'enquête qui le dira s'il y en a ou il n'y en a pas. Mais aussi comment... organisationnellement, on peut faire les choses différemment pour ne pas avoir à se reprocher, à faire les mêmes reproches demain.
Oui, Donc, ce qui veut dire que ça pourrait être aussi une priorité nationale, ce chantier.
Mais je pense qu'il faut marcher sur deux jambes. Il a raison, monsieur, de parler de la prévention à l'école, déjà, parce que c'est important aussi d'expliquer aux enfants qu'il y a des gestes qui peuvent les sauver. Ouais. Ne serait-ce qu'une parole, dire « je ne veux pas que tu me touches », en fait, la plupart, ça les retient. Oui. C'est pas que des Michel Fourniret, quoi. C'est ce qu'il faut bien avoir en tête. C'est-à-dire qu'il y a des gens, en fait, ils seront retenus, ils auront peur si l'enfant réagit. Parfois, ils profitent simplement du mutisme de l'enfant. Donc ça, c'est une première mesure. Et après, il faut une politique, un arsenal répressif. Mais ça, c'est comme dans tous les domaines. On a oublié souvent la répression. La répression, en fait, c'est sortir, couper l'élément malade, en fait, d'une société, le couper du reste.
L'isoler.
Voilà, l'isoler. Et c'est à ça que sert la prison. C'est à ça que sert une politique pénale. Donc ça, c'est le premier point. Après, quand même, au-delà des moyens, il y a un problème d'organisation, excusez-moi, dans la justice et dans d'autres secteurs, en France, public notamment. Quand vous regardez que les mecs se sont envoyés tout ça par courrier postaux, à l'ère d'Internet, moi, ça m'effraie, je suis désolé. Ça. Sur les statistiques, par exemple, que le ministère de la Justice n'a pas de statistiques. Il a fallu qu'ils en trouvent en urgence. Il n'y a aucune statistique pénale sur l'origine sociale des délinquants et criminels, sur leur parcours de vie. Il faudrait des statistiques permanentes,
ce qui existe dans d'autres pays.
Entretenues. Mais évidemment, il n'y a qu'en France qu'on fait des statistiques sur rien. C'est hyper utile pour faire une politique globale, en fait, de la prophylaxie, de la prévention, etc. Et définir des priorités, il faut un arsenal statistique efficace. C'est très facile aujourd'hui avec l'IA. Vous avez quand même des outils de nos jours, comme l'IA, qui permettraient de traiter, par exemple, ces plaintes, les plaintes simples. Parce qu'il y a une. C'est vrai qu'en France, on est à 4 millions de plaintes. Donc, il y a
énormément de plaintes 3 millions 6,
qui ne sont pas traitées. Moi, j'ai porté plainte, par exemple, il y a un mois parce que mon hall a été cambriolé. Donc on m'a volé un vélo et une trottinette électrique. Je me doute que ce ne sera pas numéro un sur la liste des priorités. En revanche, j'ai connaissance d'une femme à Toulouse qui a été agressée sexuellement, n'a pas été violée, mais agressée sexuellement par un mec d'un kebab à côté qui l'a suivi dans la nuit, qui a sorti quand même son sexe, hein, et qui a essayé de rentrer chez elle sans papier. Hein. Donc le voisin a eu une présence d'esprit de filmer, etc. J'y suis allé moi m'occuper de la situation parce que, et le type est parti à quitter la ville parce qu'il a eu peur, mais on aura attendu la police, ça aurait pris 2-3 ans. Et ça, c'est un discours qui revient chez les gens parce qu'en fait, vous n'allez pas rester toléré qu'à 50 mètres de chez vous le type qui soit rentré et qui essaie d'agresser l'une de vos proches. C'est pas possible en fait. Pour la plupart des gens, c'est quelque chose qui est insupportable. Donc il faut quand même une rapidité. Au moins d'éloignement ou d'une présence policière. Quand une femme appelle pour un truc comme ça, ou un homme, un jeune qui a été agressé dans la rue, il faut qu'immédiatement, il y ait 2-3 flics qui se déplacent, qui aillent sur place, qui montrent leur présence. Là, en fait, vous pouvez appeler, ils ne viendront pas pendant 6 mois. Alors, il n'y a pas qu'une question de moyens là-dedans. Désolé, il y a une question de volonté.
Il faut peut-être faire attention à la stigmatisation quand même. Il n'y a pas que des sans-papiers qui vendent des kebabs et qui ont un grand couteau pour... Patrick Bruel, Patrick Poivre d'Arvor sont aussi des délinquants et ça met du temps à venir. Mais vous avez donné un exemple.
Je vous donne un exemple qui était Grande Rue Saint-Michel. Donc, un exemple que je connais, qui est vérifiable. Donc
là, toutes les rues qui ont des kebabs n'ont pas des agresseurs sexuels.
Pourquoi ? Mais là, c'était le type du kebab. C'était un employé du kebab. Et pourquoi je donne cet exemple ? Parce que non seulement a-t-il agressé, mais en plus est-il ici dans l'illégalité et que rien n'a été fait. Et que ça fait 9 mois, et que le mec est encore, quand même, dans son kebab en train de les fabriquer, de les vendre.
Des précédents.
Faire attention
avec
à la stigmatisation tout de même. En donnant un exemple, ce ne serait pas l'exemple.
Mais je peux vous en donner plein d'exemples dans tous les cas. Je peux vous donner des exemples de prêtres, etc. Mais ce cas-là, il existe. Ce cas-là, il existe, je l'ai vécu, moi. C'est le cas que moi, j'ai vécu.
Je ne mets pas votre témoignage en cause, mais je dis qu'il faudrait...
C'est le cas que moi, j'ai vécu, et j'ai été obligé de m'en occuper tout seul, en plus.
Sandrine,
je l'ai fait.
Vous vouliez intervenir.
Oui, je voulais compléter. Eu égard à ce que je viens d'entendre, l'importance de ce que disait Hugues Bernard et qui peut pallier au dysfonctionnement. Une des raisons de dysfonctionnement que l'on observe sur un certain nombre d'affaires, je pense aux violences sur les enfants, aux violences faites aux femmes, c'est l'absence de continuité dans l'information et dans l'accompagnement. Et effectivement, quand on manque de moyens, quand on fait appel à des intérimaires ou quand on change régulièrement les postes des uns et des autres, il faut qu'il y ait des personnes qui soient des personnes de ressources, parce que quand vous avez une rupture dans la continuité de l'information, comme c'est peut-être le cas dans cette affaire, ou dans l'accompagnement, ça ne marche pas. Donc ce qu'a dit Hugues Bernard est extrêmement important dans les mesures à prendre demain. Et puis, au-delà des moyens dont on parle, deux mots rapides d'une expérience qui fonctionne dans les observatoires sur les violences faites aux femmes, c'est d'apprendre à travailler ensemble. Ça nécessite pas de moyens supplémentaires. C'est la culture commune. Et vous parliez de philosophie du droit, je parlerai de philosophie tout court et de regard sociétal et politique. Et il faut qu'on ait une culture commune. Et quand on parle le même langage, quand on est médecin, assistante sociale, gendarme, policier... Eh bien, c'est ce qu'on a essayé de faire et je crois qu'on a réussi pendant 4 ans, en tout cas ces derniers mois, et qu'on a des indicateurs communs, qu'on parle de la même chose, ça veut dire que les actions que l'on mène, elles sont mutualisées et qu'on est capable de mettre nos forces en commun et ça change tout dans la manière dont on travaille les dossiers sur les femmes, en tout cas en Haute-Garonne. Et puis, vous l'avez dit et j'allais en parler, l'affaire qui est aujourd'hui est devant nous et nous émeut et nous interroge. Je lisais ce matin que la justice travaille avec un logiciel de traitement des données de 1999.
Oui.
de 1999 à l'ère de l'intelligence artificielle, de cette capacité à acquérir des données et à les traiter.
C'est grave, moi,
mais où on est dans ce pays? Alors souvent on s'interroge sur les effets pervers de l'intelligence artificielle. Là je crois qu'on a quelques start-up en France qui sont en pointe. Il est urgent pour ce gouvernement de faire appel à elle. Et puis enfin un dernier élément en fonction de ce que vous disiez sur l'éloignement, etc. Chaque fois que l'on fait des progrès, on a le balancier qui retombe. Et je vois que plus les femmes avancent dans la capacité à se libérer, à dire ce qu'elles vivent, et plus le masculinisme augmente et on renvoie les femmes au Moyen-Âge. Et ce matin, un exemple très concret sur l'affaire Patrick Buel, présomption d'innocence. Donc, une journaliste, une de vos confrères, Eric, disait à une jeune femme qui a été attachée de presse, qui avait porté plainte il y a quelques années, qui a retiré sa plainte et qui vient de la redéposer, elle lui disait, mais puisque vous saviez que c'était un prédateur, mais pourquoi vous êtes allée toute seule le voir? Pourquoi vous n'avez pas mis en place des moyens pour prévenir ce que pouvait faire Patrick Bruel? Mais où on est de parler comme ça aux femmes? Mais où on est? Il fallait s'enquérir de savoir pourquoi
vous savez,
les comportements
c'est souvent les femmes qui
de
ont
ce chanteur.
Réflexion, paradoxalement.
Non, mais franchement, et c'est une femme qui parle à une autre femme.
On
a quand même des évolutions
femmes,
de mentalité.
Contre, attention,
hein.
Les femmes ne sont pas des éternelles mineures. Dans les crimes sexuels, elles peuvent être aussi coupables. Elles sont souvent complices.
Lucie Peytavel, le coût de la virilité, 96% des prisons sont occupées par des hommes pour des délits mineurs ou majeurs.
Oui, tout à fait.
Je vous invite à lire le coût de la virilité.
Je connais ces statistiques, mais dans les cas d'inceste, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas condamnées, mais qui en réalité sont complices actives et passives très souvent. Dans les cas de pédophilie, il y en a beaucoup qui savent très bien ce que font leurs maris. Je ne vois pas comment l'épouse de M. Barella pouvait ignorer quand même qu'il avait été convoqué je ne sais pas combien de fois. Donc attention, le mal est équitablement partagé entre hommes et femmes. Les hommes sont plus pulsionnels, c'est sûr.
Être complice est une chose, être auteur, ça n'est plus une autre.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que les hommes sont plus pulsionnels. Donc dans le crime de sang, il y a évidemment une surreprésentation des hommes. Et c'est classique, parce qu'en fait, c'est à voir aussi avec la biologie. Mais les femmes peuvent être aussi capables de faire le mal. Donc j'aimerais bien qu'on puisse aussi garder un regard humaniste sur l'humanité, pas...
Alors, je vais vous...
Pas d'accord avec vous du tout.
Vous n'êtes pas d'accord.
Il y a des femmes qui font du mal.
Oui, il y a des hommes aussi, en majorité. Oui.
Mais je ne dis pas le contraire. Je vous explique la différence de nature.
C'est une philosophie de vie, une façon de voir la société.
Vous l'avez dit, on ne va pas s'égarer là-dessus, ça pourrait faire l'objet d'un autre débat. Non, mais c'est important. Vous l'avez dit, vous êtes exprimés tous les deux. Il y a une chose tout de même, c'est qu'au-delà de cette affaire terrible... on a de plus en plus ce sentiment qu'il y a une majorité de nos concitoyens qui n'a plus confiance en ses élus, en sa justice et même en sa police pour protéger et assurer la sécurité des plus vulnérables d'entre nous, les enfants en premier, alors que, je le rappelle, on a toujours à la bouche les valeurs de la République, les valeurs de la République. Bon, la sécurité, c'est peut-être la première des promesses de la République. Est-ce que vous partagez ce constat? Est-ce que c'est une source d'inquiétude pour vous dans un pays qui apparaît de plus en plus fracturé? Bernard.
Oui, forcément que c'est une source d'inquiétude. Il y a une source d'inquiétude, c'est la capacité que les politiques ont en France à mener des politiques sur le long terme. Pour mener des politiques sur le long terme, il faut quand même des majorités. Or, on a depuis un moment, et c'est dû sans doute, c'est l'état actuel. Je ne vais pas porter de message sur les responsabilités, elles doivent être largement partagées. On a trois blocs qui n'arrivent pas à dégager une majorité, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a du bricolage dans la construction du budget de la nation, et on a du bricolage aussi pour les réponses politiques. On n'a que du bricolage. Et il y a aucune capacité à prendre le dessus pour porter l'intérêt général et rassembler. On l'a vu avec François Bayrou pour traiter de la dette, mais on le voit aussi pour traiter de la justice. On n'a pas eu de politique sur la justice qui ont permis de mettre la justice française au niveau des autres justices européennes. Vous avez une
dernier
étude
budget.
Qui monte. Non, mais par rapport aux autres
parquets
européens, on est le dernier budget européen. Ça veut dire que ça n'a jamais été une priorité. C'est aussi sans doute un des constats. Donc effectivement que la capacité que les Français ont à faire confiance en leur politique, c'est quelque chose de très important. La difficulté aujourd'hui, c'est de voir les politiques incapables de mener des politiques publiques qui répondent à leurs attentes. Sur la justice, c'est vrai. Sur, on le verra tout à l'heure, la protection sociale, à savoir les retraites, c'est pareil. On a du bricolage. On a même des élections qui passent ce sujet à l'ordre du jour, c'est-à-dire qu'on élit, y compris un président de la République, sans traiter de ce sujet-là. Donc on élit de plus en plus un président de la République au deuxième tour en disant qu'il faut éviter qu'une force politique oui. arrive au pouvoir. Donc finalement, on passe à côté du débat et on passe à côté, effectivement, de la délibération collective. C'est un gros problème en France aujourd'hui. Il faudra y mettre un terme.
Je pense que le problème est plus dans ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a deux conceptions de l'ordre public en droit, des libertés publiques en droit français, en fait, classique. C'est l'ordre public réactif et l'ordre public prospectif. L'ordre public réactif, c'est ce qu'on fait en soi. C'est-à-dire réagir avec de l'émotion à chaque sujet. Dès qu'il y a, malheureusement, un cas qui suscite de l'émotion, et ça vaut pour toute la classe politique, notamment le Rassemblement National est champion de ça, de ces réactions émotionnelles, la France Insoumise aussi, mais tous les autres, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une classe politique qui est dans l'émotion et jamais dans la prospective. Un ordre public, ça se construit sur le temps long. Ça se construit notamment, on le voit, regardez, chaque année, dès que le Paris Saint-Germain gagne, c'est un autre exemple qui a fait beaucoup parler récemment, vous avez des émeutes. Et à chaque émeute, chaque année, c'est comme si c'était une fatalité. C'est-à-dire le gouvernement,
c'est comme
les voitures
qui brûlent,
va avoir une émeute,
le
31
décembre.
Pourquoi ? Il n'y a pas eu, quasiment pas eu une condamnation dans ces trucs-là. Parce qu'en fait, si vous avez une justice qui ne condamne pas très rapidement, et je ne dis pas avec une extrême sévérité, mais par contre qui condamne, c'est-à-dire avec le type fait un truc, il prend 6 mois ferme, il prend 1 an ferme. Et en fait, on n'a jamais pensé toute la chaîne de l'ordre public. C'est-à-dire qu'on n'a pas pensé non plus au fait qu'il y avait des prisons qui sont surpeuplées aujourd'hui, puisqu'on a un contingent de criminels et de délinquants qui a augmenté par rapport à il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'il y a plus de crimes et délits, donc on a plus de gens à enfermer. Ça, c'est un premier point. Vous ne pouvez pas faire de réinsertion si vous n'avez pas de répression. C'est un truc qu'on n'a pas compris, en fait, qui a été très mal pensé. La réinsertion, elle n'est possible qu'après une punition. Il y a un expert psychiatre, un pédopsychiatre, qui l'expliquait récemment. C'était Jean-Marc Mankemoun, un excellent expert psychiatre, qui disait, en fait, si vous n'avez pas de punition, il n'y a pas de réinsertion possible. Et donc, sur tous les sujets, l'État a oublié de faire preuve, tout simplement, de fermeté. C'est ce que demandent les gens, d'ailleurs. Il y a une demande constante, en fait. Les gens disent, arrêtez de réagir, arrêtez, essayez de mettre en place des politiques et tout. Et on voit aussi que, malheureusement, les Français, ils sont parfois dans l'injonction contradictoire. C'est-à-dire qu'ils demandent ça, mais à chaque fois, ils disent « Ah ben là, il y a peut-être une exception avec telle catégorie. » Et non, en fait, on ne peut pas faire de la politique de l'exception à chaque fois. Regardez nos codes, en fait, nos codes juridiques. Il y a une inflation normative qui est impressionnante. Quel que soit le domaine, oui. Prenez le code fiscal français pour un chef d'entreprise, c'est incompréhensible. Et même des fiscalistes, des profs de droit fiscal à la fac ne le comprennent pas.
C'est un vrai problème. Hein.
Ouais. Il faut un peu de simplification. Voilà.
Sandrine Fleureux, vous aurez le mot de la fin.
Juste sur les derniers propos de Gabriel, que je partage en partie, je crois qu'on a oublié que les droits s'accompagnaient de devoirs. Ça veut dire qu'il y a des limites. Et la gauche, je crois qu'il y a une partie de la gauche, peut-être dont je fais partie, qui...
Vous avez fait partie, peut-être.
Je suis toujours partie, je suis toujours membre du bureau national du Parti socialiste.
De
la mienne.
Générale.
Très bien, parfait. Elle a oublié le respect de l'état de droit avec des droits et des devoirs. Et donc, on a souvent été traité de laxiste. Alors, peut-être à tort, parce que chaque fois...
C'est pas vrai, historiquement, pour la gauche, en plus. Hein. La gauche, en France, était plutôt stricte.
Elle a plutôt...
Enfin, historiquement, je parle d'un
siècle. En tout cas, dans l'opinion populaire, aujourd'hui, on est toujours vu, et moi j'en parle avec beaucoup de jeunes, comme des gens extrêmement laxistes, avec l'exemple, vous trouvez toujours une exception à la règle. Donc je crois qu'il faut revenir à la règle, il faut faire des choses extrêmement simples. Après la question de l'ordre et de la sécurité, je voudrais juste faire une petite parenthèse, parce qu'on vient d'avoir des élections municipales, et j'ai beaucoup tourné moi dans les communes de mon territoire, et vous avez parlé, j'étais confrontée à des militants du RN qui disaient la sécurité dans cette ville n'est pas respectée, les incivilités... Tout ça était vrai, mais une commune, ça se gère pas en mettant 250 policiers municipaux. Une commune, mais ça vaut pour un État aussi. Et une commune comme un État, ce sont des politiques d'éducation qui tiennent la route, ce sont des politiques d'accueil de la petite enfance, ce sont des politiques d'emploi qui ont du sens, ce sont des politiques culturelles, des politiques sportives. Or aujourd'hui, bien malin qui peut dire quels sont les partis politiques qui ont aujourd'hui une vision, alors avec des différences totalement légitimes dans une démocratie, mais de véritables visions. Et vous l'avez dit, on est plus dans la réaction que dans la prospective, oui. Et je vous rejoins, et j'aimerais bien que, et notamment le parti auquel j'appartiens, qui est en train de travailler sur son projet, est un projet véritablement prospectif.
Je donner une toute petite nuance, parce que je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. Sur la police municipale, en revanche, je pense que, vu l'affaiblissement des moyens, et ça, c'est une vision très centraliste française, de la police nationale et parfois de la gendarmerie, peut-être qu'on peut envisager des polices municipales avec des prérogatives un peu élargies, parce qu'en fait, par exemple, pour se rendre très vite sur place, pour un certain nombre de choses, ça peut être aussi une solution, en fait, de déléguer parfois.
À condition
parfois,
qu'ils soient très bien formés.
En tout cas, je pense pour les grandes métropoles. Paris, Marseille, Toulouse, etc. On peut avoir une police municipale largement au niveau de la police nationale. Et même parfois, je vais vous dire, vous allez être surprise, ils sont mieux formés dans la police municipale que dans la police nationale.
Alors, c'est pas toujours.
Et ça, c'est des
alors,
gens...
Moi, je viens de présider le dernier concours. Je peux vous dire qu'il y a vraiment de tout.
Oui. Alors, c'est le problème parce qu'en fait, c'est souvent des gens qui viennent de plusieurs univers. Des anciens militaires, des trucs, des gens de la sécurité privée. Bon, voilà.
Bon, on n'en a certainement pas terminé avec les conséquences de cette affaire et du meurtre de Liana. On va en rester là, nous, pour aujourd'hui. J'invite encore une fois tous ceux et celles qui nous écoutent à avoir une pensée pour l'adolescente et sa famille. Demain, 14h30, au moment des obsèques, nous allons faire une pause d'une vingtaine de secondes avant de revenir à l'antenne. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Retour au direct où je retrouve les trois invités de cette émission, Sandrine Floureux, Hugues Bernard et Gabriel Robin. Une étude de l'INSEE est parue il y a quelques jours. Elle s'appuie sur des projections qui montrent que la population française atteindrait un pic de 69,8 millions d'habitants en 2037, année à partir de laquelle elle entrerait dans une phase de décroissance, l'amenant à 65,9 millions en 2070. Alors tout ça paraît loin, mais cette évolution se ferait malgré l'apport migratoire, celui-ci ne suffisant pas ou ne suffisant plus à compenser un solde naturel devenant de plus en plus négatif. Elle aurait pour conséquence un net vieillissement de la population dans une France qui pourrait compter deux fois plus de seniors que de jeunes de moins de 20 ans, toujours en 2070. Est-ce que vous avez été étonné par les chiffres et les conclusions de cette étude? Et quelles conséquences en tirez-vous pour l'avenir et même pour le présent? Hugues Bernard.
Alors, mais d'abord, féliciter un outil qui est un outil public, l'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques. C'est un outil public qui permet effectivement de mesurer l'état de la démographie. Se féliciter aussi d'un outil qui est le Conseil d'orientation des retraites, qui est un outil qui partage aussi les mêmes constats alarmistes que l'INSEE, souvent qui propose des solutions de recul de l'âge de départ, mais qui est un outil de dialogue social, d'expertise partagée et d'éclairage démocratique des choix d'avenir. Et c'est important que sur ces sujets-là, même si c'est pas forcément gravé dans le marbre, il peut y avoir aussi des solutions en matière de démographie, d'incitation à la natalité qui peuvent changer la donne. Tout ça n'est pas gravé dans le marbre. C'est à politique constante, ceteris paribus, toutes choses égales par ailleurs, comme on le dit en économie.
Fondées sur les tendances observées actuellement.
Voilà.
C'est pas
si on ne change rien, voilà ce qui se passe. Alors, la CFDT défend un système qui soit lisible par tous, qui était la retraite par points, qui était quelque chose de plus transparent, qui permettait effectivement à ce que tout le monde ait une lisibilité sur le passage qui ne concentre pas tout le débat des retraites sur l'âge pivot, en définitive. Or, on a eu une proposition qui était le recul de l'âge de départ à la retraite, qui a été suspendue. Alors là, dans un débat et une majorité momentanée qui a permis de suspendre cette réforme. La CFDT, ce qu'on dit, et ce que dit aussi l'INSEE, s'il y a un vieillissement de la population, il y a une baisse de la démographie de la France, et donc plus de personnes qui devront être indemnisées par moins d'actifs, eh bien, il faut se poser la question de comment on entre peut-être plus facilement sur le marché du travail, comment on y reste jusqu'au bout, comment on facilite l'emploi des plus jeunes de la génération Z aujourd'hui, qui représente sans doute des difficultés et qui a des exigences supérieures, et comment on maintient dans l'emploi et dans l'emploi digne et de qualité plus longtemps les actifs. Et tout ça, ça passe par quoi ? Ça passe par ce que la CFDT a proposé. La CFDT a été, y compris, la dernière organisation syndicale, membre du conclave proposé par les Bayrou. On est allé sur réintroduire les critères de pénibilité pour qu'effectivement les personnes qui sont plus exposées au travail de nuit, au port de charges lourdes, à des choses qui sont très identifiables sur le fait qu'on a des maladies professionnelles plus facilement quand on est sur des métiers très exposés, bien qu'on traite cette question de la pénibilité qui a été totalement absente du débat des retraites et qui aujourd'hui n'est pas rentrée dans les faits. Donc c'est favoriser l'emploi des seniors, lutter contre les discriminations liées à l'âge. Quand vous avez plus de 50 ans et que vous postulez à un emploi, vous avez plus grandes difficultés pour y avoir accès. Renforcer ce qu'on dit, la prévention sur la pénibilité. Améliorer aussi, c'est un débat, les conditions de travail. Aujourd'hui, on a en France un impensé sur les gens qui ont des accidents de travail et les gens qui meurent au travail. On a des chantiers à Toulouse sur lesquels les gens meurent au travail. Il n'y a pas de comptabilité, il n'y a pas de prévention. Les documents uniques d'évaluation et d'évaluation des risques professionnels et de lutte contre les risques professionnels font défaut dans le privé et dans le public. Donc avancer aussi sur cette question d'amélioration des conditions de travail et favoriser les transitions. L'insertion sur le marché du travail et les sorties progressives doivent être améliorées pour qu'on puisse être plus nombreux à travailler plus tôt, plus tard et dans de meilleures conditions, avec des conditions de travail dignes et un salaire aussi qui permette de vivre et d'avoir le pouvoir de vivre dignement.
Alors là, on a eu la réflexion et les analyses du syndicaliste de la CFDT, bon, qui a beaucoup axé effectivement, mais c'est une des questions principales qui surgit après la publication de cette étude. Quid de nos retraites dans les 10, 20, 30, 40 ans qui viennent ? Gabriel Robin, vous, vos conclusions et les leçons que vous tirez de cette étude ?
Bon, déjà, il me semble que ce sont des études intéressantes, permettre de se projeter, mais qui ne sont pas gravées dans le marbre. La démographie, peut se résorber dans 10 ans. Elle change, elle évolue. Et d'ailleurs, on le voit, il y avait des prévisions démographiques qui avaient été faites pour certains pays du Sud, notamment toute l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, etc., qui se sont révélées fausses. Par exemple, prenez le cas de l'Iran. L'Iran, on est sous le seuil de remplacement. On est en dessous de 2 enfants. Prenez le cas de l'Algérie, on est en dessous du seuil de remplacement. Et tout ça, ça n'avait pas été prévu par les modèles il y a 20 ans, et on était à 2, 5, 3. En Iran, par exemple, pays que je connais un petit peu, l'ethnie perse, c'est-à-dire parce que c'est un pays multiethnique, c'est un enfant par femme. C'est beaucoup moins qu'en France. Il y a très peu de pays aujourd'hui qui résistent à la décroissance démographique. Il y a l'Afrique sahélienne, c'est-à-dire l'Afrique subsaharienne. Là, on est sur pour l'instant, en tout cas, des chiffres très, très élevés. Ouais. Donc, c'est la seule région du monde qui n'a jamais fait de transition démographique pour l'instant. Parce que toute l'Asie, l'Amérique du Sud, c'est en dessous de l'Europe. Qui pouvait croire ça il y a 20 ans ? Le Brésil, c'est 1,6 enfants par femme. L'Argentine, c'est 1,2. Donc, si vous voulez, on n'est pas une exception. La France n'est pas une exception. La seule exception, d'ailleurs, dans le monde... d'ailleurs, c'est une exception occidentale, mais pas qu'occidentale, puisqu'on le voit hors de l'Occident, il y a aussi un déclin démographique, ce sont les États-Unis. Pour des raisons diverses et variées, qui tiennent d'abord au fait que ce soit une population assez religieuse, mais aussi à l'habitat. L'habitat américain est grand, on vit dans de grandes maisons, ça compte, ça aussi, quand on veut avoir plusieurs enfants. Et par ailleurs, au niveau de salaire. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont une protection sociale qui est moindre qu'en France, mais c'est plus que compensé aujourd'hui par l'écart de salaire. C'est-à-dire depuis 2007, depuis la crise des subprimes, l'écart est devenu énorme. Ils viennent de voter un truc dans la ville de New York. Les femmes de chambre new-yorkaises seront à $150,000 net par an. En France, même, les médecins ne gagnent pas ça. Donc, on est sur des écarts de salaire qui sont très, très, très importants. Alors, qui s'accompagne effectivement d'une moindre protection. Il y a des assurances privées quand même qui couvrent. Et en France, on a aussi recours à des assurances privées. Donc, effectivement, il faudrait peut-être qu'on se dise que là, on a raté le coche depuis une vingtaine d'années. On a raté le train. La France, c'est une partie de l'Europe, pas toute l'Europe, parce que vous avez des pays qui mènent des politiques. Démographiques, il n'y a pas de pays en Europe qui tient. On est presque celui qui tient le mieux. En dehors de 3-4 exemples, mais c'est des petits pays que j'ai plus en tête. Si vous prenez les grands pays, soit l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, c'est encore plus catastrophique que nous, sauf le Royaume-Uni. Les trois autres, c'est la catastrophe intégrale. L'Italie, vous avez des zones, des régions d'Italie, notamment vers la Ligurie et tout ça, donc c'est-à-dire à côté de Nice. 0,6 enfants par femme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 0,6 enfants par femme, ça veut dire que ce sont des villages qui meurent, des industries qui meurent. Et donc, en plus, ce n'est pas compensable en grande partie par l'immigration, puisque malheureusement, l'immigration qu'il y a en Europe, en tout cas singulièrement en France, est très peu qualifiée. C'est une immigration qui n'est pas insérable majoritairement sur le marché du travail, en tout cas pour des emplois qualifiés. Donc oui, on est face à un problème qu'on ne pourra pas compenser par la démographie, puisqu'en fait, il n'y a aucune politique démographique d'encouragement qui marche. Ça a été essayé, par exemple, en Hongrie, avec Orban. On a vu que les résultats n'étaient pas les bons. Il n'a pas obtenu de résultats en la matière. Ça a été essayé ailleurs en Europe. Ça a un petit peu marché au Danemark, un petit peu marché en Scandinavie. Si vous n'avez pas le logement qui va, si vous avez une très très grande mobilité professionnelle qui fait que vous n'avez pas vos parents pour vous aider, pour garder les enfants, etc., vous ne pouvez pas faire plus de un ou deux enfants. Donc c'est notre mode de vie, c'est anthropologique. Donc on est face à une impasse. Donc face à une impasse comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une politique économique qui prenne compte de cela, qui baisse un certain nombre de dépenses. Malheureusement, je ne vois pas comment on peut faire autrement.
Bon. Oui, ça serait le meilleur encouragement à la natalité, c'est ce que vous voulez dire. On est fleureuse.
Bon, ah merci. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on est surpris? Ben non, parce que avant de venir, grâce à vous, je relisais mes fiches de l'Observatoire des territoires, parce que c'est très intéressant pour nous quand on est les politiques publiques locales. Oui. Et la dernière étude que j'avais lue, elle était de 2017, et on était déjà dans les chiffres et dans les mouvements que vous êtes tous en train de décrire. Donc, et la France n'était pas la plus mal lotie. Oh. À l'époque, c'était plutôt la Suède qui commençait à décliner sur un certain nombre de questions. La Chine aussi,
avec sa politique à un enfant, et avec des conséquences économiques.
Mais donc oui, on est en 2017, et ce qu'on est en train de dire était déjà les prémices de ce que l'on vit avec, effectivement, aujourd'hui, quand on interroge les jeunes sur vous l'avez tous dit, sur les conditions et les modes de vie que nous avons. Les jeunes aujourd'hui, on a beau leur parler de réarmement démographique, ça leur parle absolument pas. Par contre, quand on leur parle d'améliorer les conditions de vie, leur mode de vie, de travailler sur la question du climat, peut-être que si on leur fait ce type de proposition, ils vont réfléchir à avoir une famille. Les jeunes qui sont en Haute-Garonne, qu'on a beaucoup consultés quand je m'occupais de jeunesse, à aucun moment ils n'envisageaient de faire des enfants dans un monde en guerre, en tension.
Tout ça, c'est secondaire par rapport au logement. Vraiment, le seul problème, c'est le logement. Le logement fait partie des modes de vie.
Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a véritablement des politiques d'urbanisme quand on parle de densité, de densité, de densité? Est-ce que ça incite les jeunes à avoir un cadre, à imaginer un cadre de vie positif? Donc, ce qu'on dit aujourd'hui, c'était vrai en 2017 et ça s'est accru. Et je crois qu'il faut qu'on travaille. Alors, à la fois sur la question, effectivement, des modes de vie pour donner envie demain aux jeunes d'avoir des enfants. Mais après, nos aînés, ils vont continuer à vieillir. On a la chance aujourd'hui d'avoir un allongement de la vie et donc on travaille beaucoup sur le bien vieillir, notamment au conseil départemental. La deuxième assemblée citoyenne est en train de produire un certain nombre de propositions sur ces questions et donc on a cette fameuse silver economy dont personne ne parle mais qui existe et qui permet de mettre en place un certain nombre de politiques économiques en lien avec le vieillissement. Hugues parlait de la question des retraites qui est fondamentale. Mais aujourd'hui, on est en 2026, vous le savez comme moi, plus de 36% des personnes de 55 ans qui se retrouvent au chômage ne retrouvent jamais un travail.
C'est pas normal.
Et on nous parle de l'allongement de l'âge de la retraite, du départ de l'âge de la retraite à 67,8. Mais on est fou, on est fou. Et ça rejoint le débat précédent. Nous n'avons pas de vision globale de ce que doit être la société française. Donc il faut qu'on s'y remette et vite.
Oui, parce que qu'est-ce que ça dit de la société qu'on va avoir dans 20 ou 30 ans? C'est une société où, alors là, quand on nous dit qu'il y aura deux seniors, deux fois plus de seniors que de jeunes de moins de 20 ans, Concernant les cotisations retraite, on nous annonce même 1,3 cotisant pour un retraité. C'est pas tenable, ça.
Pour sauver notre système de protection sociale, il faut quand même un équilibre. Donc, il faudra trouver une solution. Il n'y a pas seulement l'âge, il y a qui paye, quels sont le niveau des pensions et le niveau des cotisations. Ben, tout ça, c'est un débat. Et là, il faut une majorité. Enfin, il faut d'abord délibérer. Les Français doivent choisir. Ça doit faire partie des débats qui ont lieu lors du grand 2027, rendez-vous des présidentielles. Là, on doit poser. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a un diagnostic et on a l'INSEE, le Conseil d'orientation. Hein, on peut se projeter. On a des éléments, en tout cas, qui objectivent les choses, qui mettent à la disposition des éléments pour en débattre. Et ça doit faire partie des arbitrages qui doivent être partagés pour effectivement être dans la prospective. La prospective, c'est comment, moi je dis, c'est l'entrée dans le monde du travail qui pose un problème parce qu'en France, on y rentre plus tard et plus mal. Et comment on peut y rester dans de bonnes conditions plus longtemps. Les métiers pénibles, il faut que les gens partent plus tôt. Mais les métiers qui sont moins pénibles, on peut sans doute imaginer qu'on peut travailler plus longtemps pour des métiers moins pénibles. Des métiers du soin, des métiers de l'accueil, des métiers de l'accompagnement, des métiers qui demandent de l'expertise. Qu'en pense à tout le domaine médical, à la psychiatrie. C'est effectivement avec de l'expérience qu'on arrive avec des diagnostics plus facilement posés. Or, cette expérience, il y a bien plein de métiers d'ailleurs où il n'y a pas de limite d'âge. Un médecin peut continuer ad vitam aeternam. Un avocat peut continuer ad vitam aeternam. Un universitaire peut continuer. Donc, je pense quand même qu'il faut réfléchir à ça. Il faut être intransigeant sur la pénibilité pour permettre à des gens d'avoir un temps de retraite et un temps de repos, parce que la pénibilité fait que les gens meurent plus tôt et ont des conditions de vie qui sont moins bonnes. Et donc, il faut évidemment le penser. Mais pour d'autres personnes, évidemment, il faut sans doute envisager autrement. Et puis, il y a la question de bien vieillir toute une société qui, effectivement, va diminuer en nombre, mais où on va rester vivre plus longtemps. Comment on prend en charge cette question de la dépendance? Et c'est sans doute aussi la sécurité sociale, une protection sociale, un filet collectif qui doit permettre à ce qu'on vive mieux, plus longtemps ensemble et plus longtemps en bonne santé. Ça, c'est des sujets qui doivent être évoqués.
Alors, Gabriel Robert.
J'ai deux choses à dire, juste très rapidement. Parler de mobilité géographique, mais la mobilité professionnelle en France, c'est zéro. Et ça, ça a à voir avec l'obsession française pour les concours et pour les diplômes.
Les diplômes, ouais.
Regardez, si on a très peu de procureurs et de magistrats en France, c'est parce qu'on a des concours hyper strict, hyper exigeant, alors que la vie professionnelle, je peux vous dire, moi j'embauche des gens venant de partout. Parfois, j'ai des mecs qui sont moins diplômés, ils vont être bien meilleurs. Et en fait, il faut qu'il y ait beaucoup plus de mobilité professionnelle en France. Il faut arrêter avec ces filières hyper. On est au temps justement d'une intelligence différente avec l'IA, etc. Il faut arrêter les filières hyper cornerisées et avoir des choses peut-être un petit peu plus à l'anglo-saxon. Pourtant, c'est pas mon modèle, moi. Mais avec des troncs communs beaucoup plus longtemps pour passer d'un truc à l'autre, etc. On peut changer de métier, c'est possible.
Oui.
Il y a plein de gens qui le font, sauf qu'aujourd'hui en France, c'est très compliqué de le faire. Et sinon, pour juste un dernier point par rapport à ce que vous disiez, on est obligé d'arbitrer. On ne pourra pas éternellement financer la social-démocratie et en même temps avoir une économie de croissance, etc. Il va falloir faire un choix. Parce qu'on n'a pas assez d'argent pour faire tout à la fois. Je ne veux pas être fataliste, mais...
Ah bah tiens, ça tombe bien, ce que je voulais dire.
Qui n'est pas fataliste, je suis sûr.
Non seulement je suis une éternelle optimiste, parce que faire de la politique, ça forge l'état d'esprit. Ce que vous dites est très intéressant. Pour revenir là aujourd'hui sur comment on finance notre système des retraites, il faudrait aussi qu'on prenne en compte ce que va bouleverser l'IA dans le monde du travail. On nous annonce 30% des métiers aujourd'hui qui par l'IA vont disparaître. Donc il faut qu'on réfléchisse aussi comment on accompagne une partie de la population. Alors il y a qui demain va se retrouver sans formation, sans rien. Donc moi je voudrais qu'on remette au goût du jour la question de l'allocation universelle et du revenu universel. Je crois qu'il y a une vraie réflexion là-dessus. Il y a un moment d'optimisme, juste pour dire à Gabriel que très modestement, moi je préside bénévolement un comité de bassin d'emploi sur mon territoire, où j'ai des chefs d'entreprise, des associations, des demandeurs d'emploi, des élus. Et aujourd'hui, je vois les chefs d'entreprise et je vois les jeunes aussi qui embauchent des jeunes qui n'ont pas de qualification. Aujourd'hui, le critère, c'est tu es motivé, tu es prêt à quoi? Et si le jeune dit oui, ça fonctionne.
En fait, moi, je fais
et donc, ça, c'est plutôt optimiste
moi, ça,
dans les deux sens.
Ce que je fais, c'est je fais des tests. C'est-à-dire, je préfère... Quand, déjà, on me prend beaucoup par prestation, en fait. Il faut dire la vérité. le marché de l'emploi, oui. En fait, est ultra précaire. C'est que des auto-entrepreneurs. Il y a plus
et
de
les
CDI.
Jeunes l'ont intégré, plus cette précarité.
Personne ne signe de CDI aujourd'hui.
Au bon sens.
Mais ça coûte trop cher. Si je signe un CDI, je vais en avoir pour... Par exemple, si un type que je vais payer pour une mission d'un mois, 4000 euros, je signe un CDI, bah, en fait, je vais le payer beaucoup moins. Parce que, avec les charges, etc., les charges sur le travail sont beaucoup trop importantes. C'est juste bon. Pas tenable.
Il nous reste vraiment une minute là, avant de finir. Moi, je vais bien
c'est
vous donner
un, d'avoir des gens en CDI.
Un coup de cœur, un coup de gueule à chacun d'entre vous. Mais alors, vous avez 30 secondes chacun, pas plus. Hein.
Bah, le coup de cœur, c'est très simple. Vous avez eu depuis... Vous allez avoir, à partir du 1er juillet, un nouveau droit social. Vous allez avoir un congé supplémentaire pour accueillir un nouvel enfant, jusqu'à 2 mois partagés, pour l'égalité femmes-hommes, pour l'émancipation, pour la conciliation des temps de vie, c'est une bonne nouvelle. Bon. Et il faut le souligner, c'est-à-dire qu'il faut aussi être optimiste, on est capable de créer des droits nouveaux, même dans la période.
Gabriel Robin.
Alors moi, le coup de cœur, c'est pas un grand film, mais j'ai trouvé que c'était un film intéressant, enfin en tout cas qui sorte, et qui était éducatif, notamment pour les enfants, parce qu'il apprend... notre histoire récente, c'est le film La Bataille de Gaulle. C'est pas, je veux dire, il a des maladresses, il a des défauts, etc. C'est pas un film d'auteur, bon. Mais c'est un beau grand spectacle français et qui montre aussi qu'il faut de l'espérance. Parce que quand De Gaulle débarque à Londres et dit à Churchill, je suis Clovis à Tolbiac, il est seul.
Oui, oui.
Il fallait quand même y croire.
Ah non, allez voir La Bataille de Gaulle. Dans une floreuse.
Alors, j'étais sur le dernier film avec Virginie Efira, ce film japonais où elle a eu le prix d'interprétation.
Ah oui, Japan,
parce que je trouve qu'on remet un peu d'humanité dont nous avons tous besoin. Et donc, croire en l'humain, croire aux relations humaines, au-delà de toute la technologie qui nous envahit au quotidien, je trouvais que ça faisait du bien. Voilà, c'est mon coup de cœur.
C'est un très bon film, d'ailleurs.
Oui.
C'est la fin de cette 233e mêlée de l'info. Merci beaucoup à tous les trois d'y avoir participé. Je vous remercie en particulier d'avoir abordé, traité le premier sujet avec tout le recul et le respect qu'il méritait. Merci aussi à Yannick Galupini qui a réalisé cette émission. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant sur le site web de Radio Présence. Et merci bien sûr à tous nos fidèles auditeurs et auditrices. Rendez-vous jeudi prochain. À bientôt.